construite la carrière du patron de Sotheby's France ?
Oh, c'est une question très difficile d'emblée. Est-ce qu'on construit une carrière ou alors est-ce qu'une carrière ou un parcours est fait de rencontres et parfois d'intuition, d'envie, de choix ? C'est un mélange. Donc je ne pense pas avoir construit ma carrière, mais pour vous répondre, comment je suis arrivé jusqu'à Sotheby's France ? Bah, tout simplement, moi j'ai commencé mon parcours professionnel après Sciences Po à Paris en faisant l'ENA et en étant donc haut fonctionnaire pendant quelques années. Et puis j'ai eu la chance dans les années 96-2001 de travailler au Centre Pompidou comme directeur général, à l'époque avec Jean-Jacques Ayagon qui en était le président. Lorsqu'il est devenu ministre, je suis devenu son directeur de cabinet. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé chez Sotheby's France, dont je préside aujourd'hui aux destinées. Voilà, Sotheby's France est la filiale française de Sotheby's, comme son nom l'indique. Sotheby's est une maison de vente aux enchères vénérable, puisque créée en 1744, il y a 266 ans. Elle compte plusieurs lieux importants dans le monde, quatre principaux, New York, Londres, Paris et Hong Kong aujourd'hui. Et donc, j'ai la chance de diriger l'une des filiales importantes de cette entreprise.
Alors, en quoi consiste au quotidien le travail du patron de la plus ancienne maison de vente aux enchères d'art du monde ?
C'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a une partie de direction d'une petite entreprise classique. Je dis petite entreprise parce que nous sommes 85 personnes pour la filiale française, donc ce n'est pas énorme. Donc tous les aspects habituels de la présidence ou de la direction d'une entreprise sont réunis en matière de gestion des ressources humaines, d'objectifs à atteindre, de stratégie marketing à développer. Ce qui fait la particularité du métier, c'est que les matières sur lesquelles on travaille sont très particulières. D'abord parce que les objets qui sont notre actif principal sont uniques. Nous ne sommes pas dans un processus industriel, nous avons la chance de voir passer des objets rares que nous devons valoriser, que nous mettons en vente. Et puis l'autre caractéristique, c'est que nos clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, sont des gens passionnés, souvent de manière très vive par les objets qu'ils poursuivent. Et donc ces deux caractéristiques, les objets que nous voyons passer et les clients qui sont les nôtres, donnent à mon travail une tonalité particulière parce que je passe énormément de temps dans le contact avec les clients. Il y a dans la relation avec les clients des maisons de vente aux enchères quelque chose qui relève également de la transmission d'une passion, de la conviction. Je dis souvent que nous intervenons dans le domaine du désir également. Et puis également, s'agissant d'une entreprise qui doit mettre en scène des objets, je passe énormément de temps à l'organisation de nos événements, qu'ils soient expositions, qu'ils soient présentations particulières à des clients, qu'ils soient visites d'expositions et choses de ce type. Toutes les choses relatives également à l'information que nous devons apporter à ces clients sur les œuvres que nous mettons en vente prend une grande partie de mon temps.
Donc ce sont des journées bien remplies. Il a fallu abroger la loi du monopole des commissaires-priseurs en France avant que Sotheby's puisse organiser sa première vente sur le sol français.
C'est exact. Sotheby's a été la première maison de vente aux enchères internationale à organiser des ventes aux enchères en France à la fin de l'année 2001, il y a bientôt 10 ans, après avoir combattu pour que ce monopole qui existait depuis 400 ans soit remis en cause et nous permettre d'intervenir. Jusqu'alors, on était dans une situation absurde, puisque nous organisions nos ventes aux confins de la France, à Monaco, mais pas en France. Et donc, depuis 2001, nous avons ce bonheur de pouvoir organiser rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, dans la Galerie Charpentier, qui est un haut lieu de l'histoire de l'art et du marché de l'art en France, des ventes aux enchères. Et nous en organisons une trentaine chaque année.
C'était une belle victoire, cette histoire d'abrogation de la loi. Alors vous êtes à ce poste depuis 3 ans, vous avez assez de recul maintenant pour faire un premier bilan de ce travail et surtout tracer une évolution.
Oui, je crois que tout bilan et toute discussion ou toute évocation de l'évolution à venir doit prendre en compte le fait que nous sommes une maison très récente sur le sol français puisque nous vendons depuis moins d'une dizaine d'années. Et donc il faut mettre cela en perspective. Aujourd'hui, selon les années, Sotheby's est numéro 1 ou numéro 2 sur le marché français.
C'est qui numéro 2 ?
Selon les années, c'est Christie's, avec qui on se partage d'ailleurs le leadership mondial. Et la France, de ce point de vue, s'est normalisée, puisque les deux entreprises aujourd'hui dominent les ventes aux enchères en France. Mais ce qui doit être observé dans le cas de Sotheby's, c'est que nous continuons de progresser année après année. Et nous continuons de conquérir des parts de marché, de convaincre les clients qu'ils doivent nous faire confiance pour mettre des œuvres en vente à Paris. Convaincre également des clients étrangers qu'ils peuvent mettre en vente des œuvres à Paris, ce qui est plus difficile parce qu'on doit aller à rebours d'une tradition qui jusqu'alors était fermée justement à la concurrence étrangère et à l'arrivée donc de tableaux venant de pays étrangers par l'intermédiaire de Sotheby's.
Quel est l'argument pour convaincre un client étranger de vendre à Paris plutôt qu'ailleurs ?
Il y a des disciplines dans lesquelles la place de Paris est l'une des places les plus importantes au monde, l'une des deux places les plus importantes du monde, parfois la place la plus importante du monde. Si vous prenez l'art d'Afrique et d'Océanie, si vous prenez le dessin ancien, si vous prenez l'orfèvrerie européenne, si vous prenez le mobilier ancien, l'art déco, les livres et manuscrits, vous avez là des disciplines dans lesquelles la place de Paris, traditionnellement, a toujours gardé une visibilité très forte. Et puis vous avez des domaines où, malheureusement, la fermeture à la concurrence internationale, la fermeture à la mondialisation qui s'est dénouée dans les années 1990-2000 nous a fait énormément de mal et où nous avons pris du retard. C'est notamment des domaines comme l'art impressionniste et moderne ou l'art contemporain qui sont les domaines dans lesquels les valeurs les plus importantes de transactions se nouent. Et donc de ce marché-là, hélas, la France a été historiquement un peu détournée. Donc aujourd'hui, il faut reconquérir le terrain perdu dans ces domaines et ça ne peut être que très progressif.
Quel est le chiffre d'affaires de Sotheby's à Paris en 2009 ?
En 2009, notre chiffre d'affaires était de l'ordre, pour uniquement les ventes à Paris, de 100 millions d'euros. Auquel s'ajoute un chiffre d'affaires également conséquent, du même ordre, en exportation, c'est-à-dire un objet qui sont vendus par notre intermédiaire, par l'intermédiaire de Sotheby's France, à Londres ou à New York, ou à Hong Kong maintenant, qui est une place de plus en plus importante. Donc disons que en 2009, qui a été une année qui a marqué un point bas, puisque nous étions au cœur de la crise, le chiffre d'affaires d'une maison comme Sotheby's France est de l'ordre de 200 millions d'euros à peu près.
La tendance 2010 ?
La tendance 2010 est excellente, puisqu'on devrait être au moins au double de ce chiffre, dans la mesure où nous avons eu un excellent premier semestre, et où je pense que le deuxième semestre, qui sera ponctué par des ventes importantes, qui est d'ores et déjà ponctué par des ventes importantes, sera également très bon.
Quel est le prix moyen d'une œuvre vendue sur les marchés parisiens ?
Chez Sotheby's, le prix moyen d'une œuvre vendue est de l'ordre de 40 000 euros. Nous sommes la maison dont les prix moyens de vente aux enchères sont les plus élevés de tout le marché français. Parce que nous avons une stratégie qui est tournée vers la sélectivité. Nos ventes sont composées de moins d'objets ou de moins de tableaux, mais de valeurs unitaires plus fortes. Et ça, c'est une marque de fabrique de Sotheby's qui est vérifiée dans le monde entier, parce que nous avons choisi délibérément cette posture ou ce positionnement stratégique, en pensant que présenter moins d'objets, mais de valeurs plus importantes, nous permettrait de mieux les valoriser, d'y passer plus de temps, et puis aussi parce que c'est la tendance du marché. Aujourd'hui, les acheteurs recherchent des objets rares. Les acheteurs sont moins frénétiques qu'il y a quelques années, parce que la crise est passée par là. Ils sont donc plus exigeants et ils ont une attente de qualité, de sélectivité, de provenance beaucoup plus forte que par le passé. Et donc, finalement, nous avons pensé, et c'est un calcul juste, qu'en faisant des ventes en nombre d'œuvres plus réduites, plus réduit, mais avec des valeurs unitaires et une importance plus forte, était la bonne stratégie dans cette période.
Puis c'est la bonne stratégie pour les vendre plus cher, tout simplement, si elles sont meilleures.
Oui, elles sont meilleures, et puis surtout, dans ce métier, ce qui est très important, c'est d'arriver à entraîner l'enchère supplémentaire. Car passer de 2 enchérisseurs à 3 enchérisseurs, ou de 3 à 4, ça paraît petit pas supplémentaire, mais c'est un énorme pas pour le vendeur, parce que souvent, la compétition d'enchères, lorsqu'elle n'est pas à 2, mais lorsqu'elle est à 3 ou à 4, permet d'atteindre des prix très élevés. Et donc, le fait d'avoir moins d'œuvres et de pouvoir faire un travail d'approche des enchérisseurs potentiels dans le monde entier, ce qui est là aussi une marque de fabrique de Sotheby's, est quelque chose qui est potentiellement très valorisant pour la mise en vente de l'œuvre.
Quelle est l'œuvre la plus chère vendue dans les 5 dernières années à Paris ?
Dans les 5 dernières années à Paris, toutes catégories confondues, je pense que c'est une œuvre qui a dû être vendue chez notre concurrent. Et je pense qu'il s'agit d'une sculpture de Brancusi vendue lors de la vente Berger-Saint-Laurent. Et derrière, pas très loin, on doit trouver un tableau de Francis Bacon qui a été vendu chez Sotheby's en décembre 2007 pour presque 14 millions d'euros.
Ah oui, ça commence à faire 14 millions d'euros. On a parlé tout à l'heure de l'art contemporain et de notre retard. Comment vous expliquez ce retard de la France sur le marché international de l'art contemporain ?
La première raison, elle est historique. Il y a 50 ans, la France dominait, ou archi-dominait le marché de l'art mondial. Et puis, finalement, cette loi sur le monopole nous a obligés, nous a contraints, nous a conduits à nous refermer sur nous-mêmes alors même que le marché se mondialisait. On a raté le virage de la mondialisation. Et donc le marché mondial s'est localisé ailleurs. Il s'est localisé à New York, il s'est localisé à Londres, mais il a laissé Paris un peu de côté. Donc c'est la première raison. Et changer les habitudes prises par des enchérisseurs, des places de vente, c'est quelque chose de très difficile. La deuxième raison, qui à mes yeux est très importante, c'est que si on regarde aujourd'hui les grands lieux de vente aux enchères dans le monde, on vérifie que les États-Unis disposent d'une entreprise de niveau mondial avec Sotheby's, qui est une entreprise américaine aujourd'hui. Si vous voyez le Royaume-Uni, il dispose avec Christie's, une entreprise de niveau mondial aujourd'hui, même si elle est à capitaux français, Christie's est une entreprise qui, dans ses gènes, est anglaise. Si vous prenez la Chine qui émerge, vous apercevrez que 7 des 15 plus grosses entreprises de vente aux enchères dans le monde aujourd'hui sont chinoises, parce qu'elles s'assoient sur un marché domestique extrêmement fort, extrêmement demandeur. Et si vous prenez la France, vous apercevez qu'il n'y a pas de champion national, il n'y a pas d'entreprise de niveau mondial. La première entreprise française par le chiffre d'affaires, qui est une entreprise très honorable, qui s'appelle Arcurial, arrive au 15e rang mondial. Alors évidemment, nous avons Drouot. Drouot est une marque fabuleuse, mais Drouot est une confédération d'entreprises indépendantes. C'est une marque ombrelle qui n'est pas dans la position qui est la nôtre chez Sotheby's de pouvoir développer une stratégie mondiale. Drouot n'a pas de salle de vente à l'étranger, Drouot n'a pas de marketing mondialisé, tout simplement parce que Drouot réunit 70 commissaires-priseurs indépendants qui chacun ont une relation vis-à-vis de Drouot qui est une relation de location hôtelière. Ils organisent des événements à Drouot et puis Drouot a d'autres éléments en commun comme une revue, mais Drouot n'est pas une entreprise autonome, indépendante et puissante sur le marché mondial. Si je veux être sévère, je dirais que Drouot, hélas, est une coquille vide un petit peu. En tout cas, c'est une coquille pleine, mais ça reste une coquille pleine de plusieurs éléments différents. Alors qu'aujourd'hui, il faut être global pour compter sur le marché de l'art. Et c'est en étant global qu'on fabrique un marché de l'art national. Et c'est ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni, les États-Unis, qui disposent d'entreprises puissantes. Et puis, il y a une dernière raison qui est symbolique, mais qui pèse aussi, c'est que la réglementation française a été assouplie lorsque les maisons de vente internationales ont été autorisées à faire des ventes aux enchères en 2001, mais elle ne l'a pas été complètement, et il y a encore aujourd'hui des obstacles qui nous empêchent de faire complètement notre travail.
Alors Drouot serait franco-français, si on voulait résumer.
Drouot est vraiment ontologiquement franco-français.
Alors ça veut dire, en clair, qu'on résiste mal à la concurrence internationale ?
On résiste mal à la concurrence internationale, alors même que ce pays a tous les atouts rêvés pour être un lieu incontournable du marché de l'art mondial. Nous avons des collectionneurs nombreux, souvent par tradition. Nous avons des collectionneurs nouveaux, également dans le domaine de l'art contemporain. Nous avons une histoire artistique qui fait que la France est un grenier d'œuvres d'art encore aujourd'hui et est un pays qui est extrêmement actif en nombre d'objets ou de tableaux mis en vente. Nous avons des atouts fabuleux et pourtant nous sommes irrémédiablement depuis une quinzaine d'années déclinants en termes de part de marché sur le marché de l'art. Donc c'est un paradoxe vraiment frustrant. Et je trouve que il faut vraiment tout faire pour essayer de dénouer ce paradoxe.
Est-ce que vous entrevoyez un redécollage ?
Je pense qu'il n'est pas exclu de redécoller ou de recoller un petit peu au marché leader que sont aujourd'hui le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, si simultanément D'abord, on libère notre réglementation de quelques handicaps de notre temps. Si également on se mobilise pour améliorer quelques points dans le domaine de la fiscalité des prélèvements qui nous placent un petit peu en souffrance vis-à-vis de concurrents étrangers, notamment le Royaume-Uni. Et puis si enfin, et c'est presque l'élément psychologique essentiel, les pouvoirs publics accordent au marché de l'art français la place qu'il devrait avoir du point de vue de la politique au sens noble. C'est-à-dire que la France a longtemps été un pays qui a été mobilisé ou polarisé autour de la question de la protection du patrimoine. Et c'est très important. Et nous disposons aujourd'hui de dispositifs extrêmement ingénieux comme la préemption, le classement comme trésor national, les lois sur le mécénat qui permettent une protection extrêmement active du patrimoine national. Et ce faisant, on a confondu cette protection qui est nécessaire avec le développement ou la priorité qui aurait aussi dû être donnée au marché de l'art. Et on a finalement imaginé ou conclu que ne pas trop encourager le marché de l'art, c'était protéger le patrimoine. Alors qu'au contraire, on peut tout à fait protéger le patrimoine et encourager le développement d'un marché de l'art extrêmement actif. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, lorsque des œuvres d'art sont vendues aujourd'hui en France, et qu'elles le soient par Sotheby's, par Christie's, par Art Curial, par n'importe quelle entreprise intervenant à Drouot, bien souvent les œuvres sont achetées par des ressortissants étrangers. Et donc l'enjeu, ce n'est pas tellement de protéger à tout prix le patrimoine de l'achat par des collectionneurs étrangers. Ça, c'est la vie normale d'une collection et des désirs que peuvent avoir des collectionneurs à un moment donné de se séparer de leur collection. Ce n'est pas un phénomène qu'on peut, sauf à être dans un protectionnisme totalement obtus, qu'on peut contourner ou qu'on peut nier. Ce qui est très important, en revanche, c'est que lorsque ces œuvres sont mises en vente, elles soient mises en vente à Paris. Ça, c'est très important, parce que ça crée un flux, une attention, une médiatisation, un rayonnement extrêmement important pour la France.
À quel rang la France se place dans le classement du marché international de l'art ?
Aujourd'hui, en quatrième position. Il y a 50 ans, nous étions en première position. Il y a 5 ans, nous étions en troisième position. Aujourd'hui, nous sommes en quatrième position, derrière, dans l'ordre, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Aujourd'hui, la Chine pèse à peu près 13 à 14% dans ces eaux-là du chiffre d'affaires mondial du marché de l'art, c'est-à-dire à peu près le double de la France.
La menace d'un plafonnement des avantages fiscaux au titre des dons et du mécénat, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous ?
Non, mais en même temps, ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui pour relancer le marché de l'art. Mais indéniablement, les lois sur le mécénat de ces dernières années, 2002 et 2003, ont été un pas en avant très positif pour montrer que l'initiative privée et l'initiative publique pouvaient faire bon ménage. Donc de ce point de vue, comme je pense que le développement du marché de l'art participe également du rayonnement culturel global de notre pays, la remise en cause des avantages du mécénat ne serait pas une bonne nouvelle.
Comment s'est comporté le marché de l'art français face à la crise récente ?
Paradoxalement, il a plutôt mieux résisté que les autres pays, parce que nous sommes un pays qui, dans ce domaine comme dans d'autres, résiste mieux dans les phases de récession et remonte moins haut dans les phases d'expansion. C'est vraiment un modèle à la française. Et pour une raison simple, c'est que notre marché de l'art est moins fort dans les domaines qui ont très fortement cru pendant les années d'expansion, comme l'art contemporain ou l'art moderne ou l'art impressionniste. Et donc il a moins subi finalement le retournement du marché sur ces secteurs. Et notre marché, au contraire, est plus réparti vers des disciplines qui résistent traditionnellement mieux parce que les collectionneurs sont finalement plus fidèles dans ces domaines. Je pense par exemple aux livres et manuscrits, je pense aux dessins anciens, je pense aux tableaux anciens, je pense à l'orfèvrerie, au mobilier ancien. Ce sont des disciplines où finalement nous avons bien sûr ressenti la crise, notamment parce qu'il y a eu moins d'objets à mettre en vente, mais moins fortement que dans les domaines de l'art contemporain et de l'art moderne. Et comme la France a une répartition entre ces différentes disciplines plus équilibrée que le reste du monde, elle a mieux résisté à la crise. Mais inversement, elle avait moins bénéficié des années d'expansion frénétique des années 2004 à 2008, et elle bénéficie aujourd'hui moins de la reprise qui s'observe fortement aux États-Unis ou en Asie.
Donc on est classique, mais sans risque. Alors, hormis Paris, on l'a dit tout à l'heure, Sotheby's est présent à New York, à Londres, à Genève, à Milan et à Hong Kong. Est-ce que vous envisagez un jour de vous installer en Chine, sachant que 6% des œuvres d'art entrant en France proviennent de Chine ?
C'est une très bonne question, dans la mesure où l'émergence des acheteurs chinois et du marché de l'art chinois depuis quelques années a vraiment modifié totalement le paradigme de notre activité et nous confronte aujourd'hui à plusieurs défis. Le premier défi auquel nous sommes confrontés, c'est que le barycentre économique et financier de nos activités dévie indéniablement vers l'Orient. Et que ce marché qui était traditionnellement bipolaire entre l'Europe et les États-Unis aujourd'hui est multipolaire et se déplace vers l'Asie. Et donc du point de vue de l'organisation de notre activité, de l'organisation de nos événements, de nos ventes, de nos relations avec les clients, c'est un enjeu très fort aujourd'hui. Le deuxième enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est que les acheteurs chinois, qui sont si importants aujourd'hui, sont principalement tournés vers l'acquisition de pièces traditionnelles de l'art chinois. Donc des sceaux, des jades, des porcelaines, des cornes de rhinocéros. Il y a une très forte demande de réappropriation de ces objets qui souvent étaient sortis de Chine au cours des siècles précédents. Donc nous sommes aussi confrontés au défi qui consiste à faire évoluer le goût de ces acheteurs pour les amener aussi à s'intéresser à d'autres domaines et à intervenir dans d'autres domaines, que ce soit l'art moderne, que ce soit l'art contemporain. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont très actifs également dans des domaines comme les bijoux ou le vin, par exemple, ou les montres. Donc c'est un deuxième défi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette activité, elle est principalement centrée sur les objets chinois. Il faut arriver, sous peine de l'avoir s'épuiser, à la diversifier dans les années à venir. Et puis le troisième enjeu, effectivement, c'est celui de votre question, c'est notre capacité, un jour, à organiser des ventes, pas seulement à Hong Kong, c'est-à-dire aux portes de la Chine continentale, mais en Chine continentale elle-même et dans les grandes métropoles que sont, par exemple, Pékin ou Shanghai. Mais à ce stade, la réglementation en vigueur en Chine nous l'interdit. Et donc nous sommes condamnés à voir nos concurrents chinois extrêmement puissants et actifs développer des ventes en Chine continentale et nous les organisons en Hong Kong, qui est aujourd'hui notre lieu principal de vente en Asie.